Je vais vous parler de notre cœur ce matin. Eric, si tu veux bien mettre le cœur d'Esdras. J'aime beaucoup ce livre d'Esdras. C'est beau, hein ? Un cœur pour la reconstruction. Je ne sais pas s'il y a longtemps que vous avez lu le livre d'Esdras, non ? Ça fait un moment ? Ouais ? Ça fait longtemps ? Oh, dit-il avec la voix du petit vieux. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas. Enfin, c'est dans la Bible déjà, je peux vous rassurer. Alors, le livre d'Esdras, il a un contexte historique assez particulier. Particulier, c'est un moment. C'est pas vraiment un moment de gloire. Un moment où tout se passait bien. C'est un moment difficile parce que il y a eu la chute du royaume d'Israël. Vous voyez, il y a. D'abord, là, en quasiment 120 ans, il y a eu, Israël est tombé. Il y a eu d'abord le royaume du Nord, puis le royaume du Sud. Je pense que c'est le bon ordre. Et puis, il y a eu tout ce peuple qui est parti en captivité à Babylone. Hein, Jérusalem a été détruite. Le temple a été détruit. Et juste avant que le temple ne soit détruit, Dieu s'est retiré. La gloire de Dieu s'est retirée du temple. Et il n'y a rien de plus triste, je trouve. On parlait tout à l'heure de la fin de vie avec Timothée. Il n'y a rien de plus triste, au-delà même de la mort, c'est lorsque Dieu se retire d'un endroit. Parce que le jour où Dieu me se retire de moi, mais je serai le plus malheureux des hommes. Et je n'y tiens pas. Et Dieu avait tout construit, tout bâti parmi son peuple pour que son peuple puisse vivre la manifestation de sa gloire. Et à cause de sa désobéissance, à cause de son idolâtrie, à cause de son orgueil, Dieu a dit « je ne peux pas rester là, je vais quitter l'endroit où il est ». C'est là aussi où la destruction est venue. Alors, chose assez particulière, c'est que pendant tout un temps, il s'est passé de nombreuses années où ce n'est plus Dieu qui régnait, mais c'était les nations qui régnaient. Tout le peuple a été donc envoyé à Babylone. Et les rois se sont succédés à Babylone, hein, et les empires se sont succédés. Et ce livre d'Esdras, c'est le livre de Néhémie, décrivent un réveil, en fait, un réveil spirituel qui est produit par qui ? Qui n'est pas produit par les hommes. C'est Dieu qui a suscité cela. C'est l'Esprit de Dieu qui a suscité ça dans le cœur des hommes. Il a produit un réveil dans le cœur des hommes. Et il a produit ça au milieu de quelques personnes, pas tous, qui remontèrent alors dans le pays de la promesse et vont se rassembler de nouveau à Jérusalem, dans le lieu que l'Éternel avait choisi pour y faire habiter son saint nom. Et au premier chapitre, la première des choses que Dieu va faire, c'est qu'il va réveiller les cœurs. Et vous savez que la première des choses que Dieu veut faire, c'est réveiller nos cœurs. Je me souviens quand on a rencontré le Seigneur avec Maryse, alors on a rencontré le Seigneur ensemble, un jour on vous racontera, c'est Manon l'autre fois qui me demandait, c'était trop long à expliquer par écrit, je dis un jour je te raconterai, on te racontera avec Maryse comment on a rencontré le Seigneur. Mais c'est incroyable comment nos cœurs ont été réveillés, bouleversés, changés. Je suppose que vous pourriez tous témoigner de ça lorsque vous avez rencontré le Seigneur Jésus. Ça a bougé dans votre cœur. La première des choses que Dieu fait, c'est réveiller notre cœur. Et parfois, au fil des années, on peut s'éteindre. Et peut-être que tu es dans la situation où Dieu veut te réveiller ce matin. Peut-être, hein. Il est écrit « Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent ». C'est fort. Parce que Dieu ne veut pas réveiller ton cœur pour que tu restes assis. Quand Dieu réveille un cœur, ça engendre automatiquement une action dans ta vie. Ça te fait bouger. Bouger vers les buts de Dieu, bouger vers l'action que Dieu a prévue pour toi. Ils se levèrent pour aller reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et je me dis, combien je veux vivre cela. Je veux vivre parce que je veux bâtir le royaume dans mon cœur. Je veux bâtir le royaume de Dieu ici. Et je veux bâtir le royaume. Je veux que le royaume de Dieu soit présent dans cette ville, dans cette région. Nous avons visité les plages du débarquement avec Maryse cette semaine. Et comme on est dans le nord, on a Bray. À un moment donné, Maryse, vous savez, les hommes ne montent pas quand ils pleurent. Et on a été à la pointe du Hoc, pour ceux qui connaissent. Vous allez à cet endroit, il y a une division de rangers américains qui sont allés et qui ont gravi avec des grappins, comme ça. Vous voyez ça dans Le Jour le plus long, avec John Wayne. Ils gravissent donc là-haut 30 mètres de falaise. Et j'étais là et je lisais les histoires de ces hommes. Il y avait un homme, un jeune homme de 17 ans. Il s'est engagé pour venir combattre en France. Et ce jeune homme a réussi à sortir, enfin à aller là-haut. Je crois que le lendemain, il a été tué lors d'une contre-attaque. 17 ans. Il avait donné sa vie pour la liberté. Mais au-delà de cette histoire, je me suis tourné vers la mer et j'ai observé l'océan. Et là, une pensée m'est venue. Et cette pensée, c'était quoi ? Je disais, Seigneur, de la même manière que ces hommes sont venus pour libérer ce pays, pour libérer l'Europe, Seigneur, je te demande, c'était ma prière, envoie, envoie, ici, dans notre pays, qui fut à un moment donné la résidence de la gloire de Dieu. Il faut dire ce qui est, c'est un pays de la réforme. Et aujourd'hui, les hommes et les femmes de ce pays vivent sans Dieu. Et lorsqu'on parle même de Dieu, on sait tout juste si on nous insulte. Pas parce qu'on est t'as des pensées rétrogrades, etc., etc. Et je me dis, Seigneur, viens, renvoie, envoie le réveil dans ce pays. J'étais poussé à prier comme ça. Ça m'a empêché de dormir la nuit suivante. Où je disais, Seigneur, s'il te plaît, reconstruit dans ce pays. Et Dieu cherche ici des cœurs, des esprits qu'il va réveiller pour ça. Parce que lorsque vous allez toujours voir les plages du débarquement, vous apprenez beaucoup de choses, vous apprenez le rôle de la résistance. Parce que avant le débarquement, toutes les unités de résistance de Normandie et d'ailleurs ont saboté les lignes téléphoniques, les lignes de transmission, les chemins de fer, etc., pour empêcher les Allemands de venir trop vite le temps du débarquement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Y a-t-il ici des hommes et des femmes qui veulent résister et qui veulent, par leurs prières, par leurs actions, permettre à ce que le réveil puisse réussir dans ce pays ? Alors, chose extraordinaire, c'est que Jérémie avait prophétisé en ces termes. Ah, j'ai oublié. Il avait dit, en Jérémie 25, « Tout ce pays, Israël, deviendra une ruine, un désert, et ses nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Et regardez ce qu'il dit en Jérémie 29, « Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. » En vous ramenant dans ce lieu, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On le connaît tous, ce verset. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Et je me dis, quelle précision. 70 ans, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous savez, quand Dieu parle, quand Dieu envoie une parole prophétique sur un pays, quand il envoie des paroles, il exerce toujours, un, la parole qu'il a accomplie. Deux, le temps lui est imparti. C'est-à-dire, c'est lui qui choisit le temps. Le tout est de savoir combien de temps ça va durer. Moi, je me mets à la place. On se dit, quand on lit la Bible, on voyage comme ça, on bondit de siècle en siècle et de dizaines d'années en dizaines d'années. On dit, purée, ça a passé vite. Hein. Forcément, ça a pris une page. Non, mais c'est vrai. Mais on ne se rend pas compte du temps. Et moi, je me mets à la place des gens qui, pendant 70 ans, étaient en captivité. C'est long, 70 ans. C'est la vie. Bon, c'est un peu plus maintenant, les hommes. Hein. Dieu est précis dans la transmission et l'accomplissement de ses promesses. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit à toi. S'il y a des promesses qui ne se sont pas encore réalisées. Mais Dieu est précis et fidèle dans l'accomplissement et la transmission de ses promesses. La deuxième, c'est que Dieu est capable de reconstruire des choses nouvelles sur des ruines de nos vies, sur les ruines du passé. Quand tout est dévasté dans nos vies, et plusieurs d'entre nous ici pourraient le témoigner, quand tout est dévasté, on se dit, mais rien ne pourra être construit ici. Et je me mets à la place des Juifs qui sont allés à Jérusalem et qui ont vu la dévastation à la fois des murailles et à la fois du temple et qui se sont dit, mais plus rien ne pourra se passer ici. Mais Dieu est capable de reconstruire. C'est Dieu qui fait les choses. La troisième des choses, c'est que Dieu veut rétablir son règne et la manifestation de sa gloire dans nos maisons, dans nos églises et dans notre pays. J'en suis convaincu. Parce que là où Dieu se tient, la manifestation de sa gloire est réelle, présente. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, vous, mais moi, je suis insatisfait aujourd'hui de ce que je peux voir dans la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que quand la manifestation de la gloire de Dieu vient, c'est un peuple qui est poussé vers l'humilité, qui est poussé vers, si je puis dire, vers la sainteté, vers des choix de vie qui correspondent aux cieux de Dieu. C'est un peuple qui est rempli de l'Esprit, un peuple qui marche avec Dieu et un peuple qui agit dans la puissance de l'Esprit. Et moi, je suis encore insatisfait. Il vaut mieux l'être. Parce que si on est satisfait, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de rien. La première étape, lorsque le peuple va arriver là-bas à Jérusalem, c'est que la première des choses qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rétablir l'adoration. Avant même de construire, avant même de bâtir, avant même de poser la première pierre et d'appeler le maire de la ville avec son écharpe, ils posent l'autel de l'adoration. Et d'ailleurs, le chapitre 3 d'Esdras raconte le rétablissement de l'autel pour adorer et ce malgré la peur, écoutez bien ceci, qu'inspiraient les populations installées dans la région. Forcément, au bout de 70 ans, le peuple était parti, il y en a d'autres qui étaient arrivés. Et au-delà de cette peur, ils choisissent d'adorer. Et il est dit qu'ils adorèrent du matin au soir, et ce, avant même que les fondations de ce qui allait devenir le nouveau temple soient posées. La première des choses que nous devons rétablir dans nos vies, c'est l'adoration. Alors, l'adoration ici, comme on a fait ce matin, mais l'adoration en esprit, en vérité. La question que je me pose souvent, c'est suis-je vraiment un adorateur en esprit, en vérité? Peut-être pas vous. Moi, je me dis, mais Seigneur, mais suis-je vraiment cela? Est-ce qu'il y a des choses dans mon cœur qui ne t'adorent pas? Est-ce qu'il y a des faits dans ma vie qui ne t'adorent pas? C'est une chose dans laquelle on doit vraiment se poser la question. Parce que Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Et en posant l'autel d'adoration, ils vont faire quelque chose d'assez important. Ils vont refuser de mélanger le pur et l'impur dans la construction. Ça, c'est la seconde étape. Il va y avoir une sanctification intentionnelle. Les gens qui habitaient la région vont dire, on va bâtir avec vous. Et ils vont dire non, radicalement. C'est-à-dire que dans la manière dont ils vont bâtir, ils ne vont pas permettre à ce qui est étranger, impur, de venir s'immiscer dans la construction du temple. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons faire attention, mes frères et mes sœurs, à la manière dont nous bâtissons nos vies. Vous le savez, je ne vous apprends rien, mais le monde est en train d'imprégner l'Église aujourd'hui. Et nous devons refuser et nous devons rejeter toutes ces pensées du monde qui viennent nous polluer l'esprit. Je vous le disais il n'y a pas longtemps, mais je suis effaré de voir aujourd'hui le nombre de couples chrétiens qui se séparent, qui divorcent. Il n'y a pas une semaine où je n'apprends pas une nouvelle. Mauvaise nouvelle, certes, mais une nouvelle de ce sens. Je m'aperçois qu'il y a parfois même des pensées comme la démocratie. Aujourd'hui, pour faire des choix, nous devons avoir la majorité dans l'Église. Alors que l'Église n'est pas une démocratie, elle est une théocratie. C'est Dieu qui dirige toutes choses. Vous voyez, plein de choses comme ça qui sont en train de s'immiscer. Et combien nous devons faire attention, mes frères, mes sœurs, à la manière dont nous reconstruisons, que nous bâtissons l'Église. Ne permettons pas, comme eux, à ce que l'impur vienne se mélanger au pur. Dieu dit en Deutéronome 18, « Tu n'imiteras pas les abominations de ces nations-là, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. » Ce refus de mélanger, ça va engendrer quoi, à votre avis ? La bénédiction ? Ben non. Je vous surprends peut-être, mais il va y avoir une lettre de dénonciation qui va être envoyée au roi babylonien. Une lettre qui va l'être envoyée, qui va la dénoncer. Moralité, arrêt des travaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces hommes et ces femmes dont l'esprit était réveillé, qui partirent de Babylone pour aller à Jérusalem, vont être arrêtés dans leur construction. Pourquoi ? Parce qu'ils ont obéi. La question est, eux, ils ont payé le prix de l'attente. Suis-je prêt à payer le prix de ne pas me mélanger avec l'impur ? Parce que, comme Jésus l'a dit, si tu veux le suivre, tu devras faire des choix et ces choix te coûteront. On le voit bien pour ceux qui sont en couple ou même qui ne le sont pas, mais aimer, c'est toujours abandonner quelque chose. Quand je veux aimer ma femme, je dois faire des choses dont je n'ai pas envie de faire. Ouais, je dois ranger des choses à leur place. Oui, je dois placer les coussins de telle manière. Ça, c'est envoyé, la chérie. Ouais. Et pourtant, ça fait combien d'années de mariage, chérie ? 43 ans. Et je suis le plus heureux des hommes. Mais ça m'a coûté d'aimer. Et ça me coûte d'aimer et de suivre le Seigneur. Non ? Il doit y avoir une intentionnalité à ne pas laisser les pensées, les pratiques du péché venir se mêler avec la construction dans nos cœurs, de nos caractères. Ce peuple a payé le prix de son obéissance. Suivre Jésus et chercher à lui obéir, ça me coûtera toujours quelque chose. Oh, ça ne vous fait peut-être pas plaisir ce que je vous dis là, mais tous, on pourrait témoigner, enfin presque tous, on pourrait témoigner que ça coûte de suivre le Seigneur, forcément. Dieu demeure fidèle malgré l'opposition. Parce qu'on a beau avoir à payer un prix, Dieu est fidèle dans ses promesses. Et il accomplira ses promesses. Sous l'onction et les ministères prophétiques d'Agé, le gars était vieux, prophète Agé, c'est un prophète très très pragmatique, vous voyez, c'était le gars, je l'ai déjà dit, je crois, mais quand vous lisez le prophète Agé, ben, j'aime beaucoup cet homme parce que un chat, c'est un chien, c'est un chien, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voyez, le gars, il est pragmatique, quoi. Il aime les choses concrètes. Et puis, il était avec un plus jeune, c'était Zacharie. Le gars, il avait la tête dans les nuages, des visions. Mais moi, j'aime beaucoup l'assemblage des deux, parce qu'il y avait Zacharie qui avait des visions, âgé, qui était très pragmatique, mais ensemble, ça faisait un parfait équilibre, je trouve. Et sous l'onction et sous leur ministère, le peuple va être comme revivifié et réenvoyé dans la construction. Le peuple va se relever et reconstruire la maison. Les prophètes étaient avec eux, à côté d'eux, pour les soutenir et les encourager. Ils eurent de nouveau la permission de construire avec un nouveau roi qui s'appelait Darius. C'est que Dieu a permis. Et ça, il l'a fait sous l'onction prophétique d'homme. Et regardez ce qu'il est dit. Quant aux anciens, ils prospérèrent rapidement pour la reconstruction, encouragés par les prophètes Agée et Zacharie. Vous voyez, le rôle du prophétique, c'est encourager, exhorter, consoler. Il y a quelques vérités. C'est que la structure que Dieu a permis ici pour la reconstruction, elle est organisationnelle, humaine, mais elle est donnée par Dieu. Elle préfigure en fait ce que serait l'Église du Nouveau Testament, avec les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Les ministères là sont faits pour encourager, pour équiper les saints en vue de bâtir les choses et amener le royaume de Dieu sur la terre. Il est nécessaire, indispensable d'avoir l'appui et l'encouragement du prophétique dans l'église locale lorsque celle-ci veut bâtir la maison de Dieu. On ne peut pas se passer du prophétique. Et nous ne passerons pas du prophétique ici. C'est ce que je disais l'autre fois. Je dis, attention, le prophétique n'a pas de... Comment dire ? Que je pèse bien mes mots, que je ne dise pas de bêtises. Il n'a pas la vertu de direction dans une église. La direction d'une église appartient aux anciens. OK ? Le prophétique est là pour accompagner cette direction. Dieu place des disciples au bon cœur au milieu de tout cela. Ah là, il va se passer 70 ans, mes amis, 70 ans. Et puis un beau jour, il va appeler un cœur, un homme au bon cœur au milieu de tout cela. Et cet homme au bon cœur, c'est Esdras. Le chapitre 7 raconte que cet homme était un lévite, donc un prêtre, apprécié par le roi Artaxerxès. Il est dit d'Esdras que la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, et ce, à plusieurs reprises. Vous pouvez le lire plusieurs fois dans le livre d'Esdras. Et notamment, et regardez, parce qu'il avait appliqué. Qu'est-ce que ça veut dire appliquer ? Il avait disposé, il était intentionnel dans sa manière de faire. Il faisait s'appliquer à faire quelque chose. C'est-à-dire, je fais vraiment attention à cela, vous voyez ? Il s'était appliqué, il avait appliqué son cœur à étudier, mettre en pratique la loi de Dieu et enseigner. Et regardez l'ordre ici, étudier, mettre en pratique et enseigner. L'ordre des choses, c'est important dans la Bible. Regardez, moi, je ne pourrais pas enseigner si je n'ai pas mis en pratique avant. Et je ne pourrais pas mettre en pratique si je n'ai pas étudié avant. En fait, ici, vous avez, en résumé en trois verbes, le parcours de ce que doit devenir un disciple. Pour devenir un disciple, je dois étudier, je dois mettre en pratique et je dois enseigner aux autres. Ça, c'est le but de Dieu de Jésus pour ses disciples. Jésus, c'est, quand il veut nous former, il veut qu'on atteigne un moment une vraie capacité d'enseignement. C'est-à-dire qu'on devienne comme des modèles pour le troupeau, si je peux dire. Parce que les anciens ne sont pas simplement appelés à être des modèles. Ce n'est pas eux uniquement. C'est nous tous, on doit être des modèles de vie. Dans nos propres maisons, au niveau de notre travail, dans notre société. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a ici deux choses que Dieu veut nous communiquer. Vous savez, il y a l'orthodoxie. Vous savez ce que c'est que l'orthodoxie ? C'est d'avoir une pensée juste, droite. D'ailleurs, c'est ce qui a donné le nom de l'Église orthodoxe. Et J'ai eu l'occasion d'avoir des réunions œcuméniques avec, et des prières œcuméniques avec des catholiques, des orthodoxes. Je peux vous dire que vous écoutez le prêtre orthodoxe prier, il ne fait pas de prière inspirée comme nous. Hein. Lui, il prie la Bible. Hein. C'est impressionnant. Et il la connaît par cœur. Hein. Le gars, il est orthodoxe. Quoi. Il a une pensée juste. D'ailleurs, soit dit en passant, ce que je vous encourage à faire, alors, ne devenez pas orthodoxe, hein, restez évangélique. Mais ce que je vous encourage à faire, ce qui peut être très bon, et ça m'arrive souvent le matin lorsqu'on fait les 30 chronos, c'est que je prends un psaume, par exemple, et je prie le psaume que le Seigneur me met à cœur. Et souvent, ça impacte mon cœur, le fait de prier la parole de Dieu. Comme quoi, vous pourrez m'appeler Père maintenant. Mais donc, il y a l'orthodoxie, mais il y a aussi l'orthopraxie. Alors, c'est quoi l'orthopraxie ? L'orthopraxie, en fait, c'est, eh ben, c'est faire des choses en fonction de ce qu'on a compris. C'est faire c'est des mises en pratique avec des choses simples. Voilà ce que c'est que l'orthopraxie. Donc, l'orthodoxie, l'orthopraxie, les mains. Orthodoxie, orthopraxie. Et dans cette histoire, il est écrit que le roi reconnaissait en Esdras une certaine expertise, mais pas uniquement... qu'il avait la tête bien remplie, Esdras, c'est qu'il reconnaissait chez lui une capacité à connaître les Écritures, mais à les mettre en pratique dans sa propre vie. Et ça, c'est hyper intéressant. Nous avons malheureusement hérité, vous savez, de la pensée grecque, la culture grecque. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans le livre des Actes, il en fait la triste expérience. Hein. Il va parler avec eux une bonne partie de la journée à l'Areopage d'Athènes. Il va parler de l'évangile, il lui pose plein de questions, il n'y a aucun qui se convertit. Pourquoi ? Parce qu'il voulait comprendre. Vous savez, dans la pensée grecque, il y avait vraiment, il y a toujours d'ailleurs, parce que nous, notre éducation, notre pays a basé sa culture sur la pensée grecque. Hein. J'espère que je ne vous apprends rien. Mais aujourd'hui, c'est la transmission de la connaissance. Je dois transmettre ce que je connais. Alors vous avez face à vous des gens qui vont connaître beaucoup de choses et qui vont transmettre cela, mais vous les regardez un peu, vous grattez un peu dans leur propre vie et vous dites, mais ce n'est pas du tout ce qu'il est en train de me dire. Et clairement, nous l'avons hérité dans notre culture. Et ça imprègne l'Église aujourd'hui, cela. Or, dans la pensée juive, c'est qu'il y a l'orthodoxie, mais l'orthopraxie, c'est-à-dire je sais et je mets en pratique. Et c'est pourquoi Jésus dira, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, orthodoxie, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez, orthopraxie. En fait, Jésus, il enseigne ça, ici. Intéressant, non ? Enfin, moi, je trouve ça intéressant. Peut-être pas vous, mais moi, je le trouve. Alors, ici, à Bethsalem, on a des valeurs quand même. Enfin, j'espère que vous en avez. J'essaie de noter ces derniers temps les valeurs. J'essaie de noter des valeurs qui sont en nous. J'ai noté ceci. Je trouve qu'ici, il y a une vraie notion où on ne veut pas vivre l'individualisme et l'un et l'autre. Je sens que dans les cœurs, les gens veulent être ensemble, vivre les choses ensemble. J'ai une notion, une valeur qui est la famille ici. La famille à la maison, mais aussi la famille ici. À chaque fois qu'une nouvelle personne vient ici, elle me dit, il y a vraiment un esprit de famille. C'est ce que m'ont dit dernièrement le couple pastoral de Tim et Ophélie, lorsqu'ils sont venus pour la présentation d'armes, ils m'ont dit, ah, il y a vraiment un esprit de famille ici. Et puis, j'ai trouvé ici aussi qu'il y avait beaucoup de simplicité. On aime les choses simples. Et il y en a d'autres. Et il y a bien une valeur que nous avons et que nous voulons poursuivre et que j'ai envie de défendre corps et âme, si je puis dire, c'est de connaître Dieu. Mais pas seulement connaître au sujet de Dieu, mais connaître Dieu dans la relation. Et forcément dans l'expérimentation d'une relation avec Dieu. Et ça va bien au-delà de la connaissance intellectuelle. Alors maintenant, on va parler des sujets qui fâchent. lait ou nourriture. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'étais interpellé dernièrement. Allez, je vous confie un truc. Il y a des sujets, moi, qui m'irritent. Tu sais, j'ai les incisives qui poussent. Je ne suis pas vampire, mais j'ai le poil qui se dresse. Et Maryse pourrait vous témoigner. Mais il y a des sujets, moi, je bondirais. Je ne sais peut-être pas vous, si vous avez des sujets comme ça, vous êtes à fleur de peau. Ben, je vous confesse que c'est ça. Mais j'arrive à me maîtriser. Merci, Seigneur. J'ai quand même le fruit de l'esprit. Je vais vous faire une confidence parce que je l'ai dit, et malheureusement, je l'ai dit, parfois enseigné, et ce n'est pas juste. Donc, ce que je vais vous dire là, je vais me recadrer déjà en premier. OK ? Mais peut-être que je vais en recadrer quelques-uns. J'entends dire parfois, je l'ai dit, « Ah, cet enseignement ou cette prédication, ce n'est pas de la nourriture solide, c'est du lait. » Vous l'avez déjà dit ou pas ? J'ai les noms. Non, mais est-ce que vous l'avez déjà dit ? Sous-entendu, je n'ai pas appris grand-chose. Ouais, est-ce que vous avez déjà dit ça ou pensé ? Ouais, merci, tu m'aides. Parce que je pensais que j'étais le seul. Il y a ici, dans ce mode de pensée, une volonté de séparer en deux ce que dit et enseigne la Bible. C'est comme s'il y avait des choses simples qui seraient réservées à des enfants spirituels et des choses compliquées réservées à des personnes dont le niveau spirituel est plus élevé. Les personnes qui s'expriment ainsi se reposent sur ce que dit Hébreux. Vous, en effet, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et de non de nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, voyons, si vous voulez bien, le contexte dans lequel Paul... Non, c'est pas Paul, c'est un auteur inconnu, l'Épître aux Hébreux. Il parle à des Hébreux, et des Hébreux qui connaissent parfaitement la loi, donc qui ont toute la connaissance. D'accord ? Ce même auteur apprend que certains d'entre eux, et c'est le but de cette épître aux Hébreux, certains d'entre eux, après avoir confessé leur foi en Jésus-Christ, leur foi comme Jésus, comme Messie, et ils se montraient d'un seul coup hésitants. Vous voyez, oh, est-ce que c'est vraiment le Christ ? Est-ce que... Voilà. Et le seul but de l'auteur de cette lettre, c'est de les amener vers Jésus-Christ et les affermir dans leur foi. Et que fait-il dans cette lettre ? Il touche à l'indécision des gens. C'est-à-dire qu'il ne touche pas là, il touche là. Il dit « ton cœur est indécis, tu sais toutes choses et pourtant tu ne fais pas, tu ne suis pas la voie du salut. » Et non à leur connaissance. Donc il touche à l'orthopraxie, pas à l'orthodoxie. Il leur dit, entre autres, de ne pas retourner au judaïsme, parce qu'en faisant cela, ils ne pourront pas parvenir à la vraie foi en Christ. En réalité, lorsqu'il leur écrit « Vous en êtes venus à avoir besoin de lait, non de nourriture solide », il leur dit que le lait, ici, c'est la prédication de l'Évangile, expliquant que Dieu s'est fait homme, est venu mourir pour les péchés. Vous comprendrez donc ma colère, je l'avoue. Lorsque j'entends, c'est du lait, mais le lait, c'est l'annonce de l'Évangile. Le lait, c'est l'annonce que Dieu veut sauver les hommes. Et lorsque je veux rentrer dans la nourriture solide, c'est lorsque je fais enfin le pas en me dire « j'arrête d'hésiter, est-ce que Jésus est vraiment le bon sauveur ? Est-ce que j'ai... » Non, je reçois Jésus est mon sauveur, Jésus est mon Seigneur. Maintenant, j'entre dans la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est ça la nourriture solide. Le lait, c'est l'orthodoxie. La mise en pratique, c'est l'orthopraxie. C'est-à-dire que j'accomplis ce que Dieu me demande. Et plutôt que de remettre en question le message du salut, les Hébreux étaient invités à se mettre en marche pour grandir dans la foi, dans l'obéissance et dans la sanctification. C'est pourquoi il est écrit « Or, regardez, quiconque en est au lait, je vous écoute, n'a pas l'expérience de la parole. Celui qui est tolé n'a pas mis en pratique la parole. Et c'est pourquoi il est un enfant. Permettez-moi donc d'exprimer mon sentiment profond. Mais Jésus, il enseignait du lait, des choses simples. Quand il dit « aimez-vous les uns les autres », c'est du lait, mes amis. Mais je deviens à devenir un homme qui mange de la nourriture solide lorsque j'aime vraiment mon frère, lorsque je prends du temps avec lui, lorsque je recherche son bien-être. Vous comprenez ça ? Lorsque Jésus enseignait sur la parabole du semeur, lorsque Jésus enseigne « Je suis le cep et vous êtes les serments », on comprend tous que c'est que le cep, le serment. On comprend tous que c'est qu'une grappe de raisin. On comprend, c'est du lait. Mais est-ce que Jésus est vraiment attaché ? Est-ce que je suis attaché à Jésus vraiment ? Est-ce que je me nourris de lui ? Là, c'est de la nourriture solide. La question n'est pas ici si c'est nouveau ou compliqué, mes amis. Mais qu'est-ce que tu apprends ? Qu'est-ce que tu mets en pratique ? Qu'est-ce que j'apprends, Seigneur, chaque jour ? Et qu'est-ce que je mets en pratique ? C'est là l'essentiel. C'est ça qui est important. Et je veux bien du lait, mais je veux que ce lait devienne une nourriture solide pour moi par une mise en pratique dans ma vie de tous les jours. Alors, mes prochains défis. J'ai parlé de vos cœurs, de nos cœurs. À chaque fois, à la fin de chaque prédication, mes amis, j'ai l'intention de vous donner des défis, de nous donner des défis. Pourquoi ? Parce que je considère que ça ne sert à rien que je prenne une bonne demi-heure pour annoncer la parole de Dieu si derrière on ne met pas en pratique, pour entrer dans l'orthopraxie. Que vais-je faire afin que Dieu puisse reconstruire sur les ruines de ma vie ? Étudier, mettre en pratique, enseigner. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui en place ? Quel temps je prends pour que Dieu puisse reconstruire mon cœur ? Ah Seigneur, j'ai piscine aujourd'hui. Ah Seigneur, mais c'est vrai, je peux vous dire, je me souviens du pasteur Daniel Lermeneau, je ne sais pas si tu te souviens, Jean-Luc, mais il disait, à l'époque où il y a eu les 35 heures, il disait, avant les gens faisaient, je ne sais plus combien d'heures par semaine, moi j'ai commencé, je faisais 48 heures par semaine. Donc ça, mais on avait le temps de servir le Seigneur, on prenait le temps de prier, on prenait le temps de faire beaucoup de choses pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, on est passé aux 35 heures, écoutez-vous, écoutez-moi, écoutons-nous. On dit tout le temps, je n'ai pas le temps. Suis-je réveillé par Dieu en ce moment ? Est-ce que vous sentez une petite lueur là ? Quelque chose qui est en train de réchauffer votre cœur actuellement ? Si vous l'êtes, n'oubliez pas, Dieu éveille l'esprit pour se lever et aller. Quand Dieu réveille votre esprit, c'est pour vous amener vers l'avant. Où dois-je aller pour que Dieu réveille mon cœur ? C'est dans sa présence. C'est vivre sa présence. Combien de temps je prends pour prier ? Combien de temps je prends avec mes frères et mes sœurs ? Combien de temps ? Est-ce que c'est ma priorité ? Moi, je peux vous dire que pour Maryse et moi, c'est vraiment notre priorité d'être là le dimanche matin. Je peux vous dire. On n'aurait rien, pour rien au monde raté ce matin. Que dois-je mettre en pratique en ce que je connais aujourd'hui ? Peut-être qu'il y a là, mais qu'il n'y a pas encore là. Demandez au Seigneur, demandez à vos proches, demandez à vos frères, sœurs, maris, enfants, parents, demandez-leur. J'ai encore des choses à mettre en pratique. Mais lesquels, Seigneur ? Que Dieu vous bénisse. Un petit peu de musique ?